Bonjour à tous, mardi 19 février 2019, il est 9h, c'est donc l'heure des voix de service. Je suis Louis de Bernis, l'émission peut commencer et j'ai avec moi autour de la table, comme d'habitude, ils sont à l'heure, ils sont en forme, ils sont souriants, Côme et Yves-Olivier, bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour.
Bon matin.
Comment allez-vous ?
Super bien,
fraîchement. Super bien,
super bien.
Vous avez pris votre petite dose de vitamine avec ce soleil, vous aussi, arrivant.
Oh, j'ai mis du... Attention. Hein.
Ça, c'est un signe que l'été approche. Ça, Yves-Olivier met du matcha dans son smoothie. Tout va bien.
Ça se peut que ça gargouille dans 30 minutes, par exemple.
Ah, d'accord. Très bien. Bon, on en reparlera alors peut-être de cet aspect scientifique de la question avec Côme dans une prochaine émission. On lance des thèmes comme ça. Et quels sont-ils justement vos thèmes ce matin ?
De mon côté, on va. Bah, c'est un petit peu varié pour une fois. On va pas faire que de l'espace ou que. Non, je plaisante. C'est pas varié du tout. on va parler des comètes un petit peu parce que ça fait longtemps quand même. Qu'est-ce que j'ai ? On va parler des pyromanes aussi parce qu'on est un peu tous fascinés par le feu, je pense. D'une araignée licorne aussi, pourquoi pas ?
Licorne.
On en a des choses aujourd'hui.
Très bien. De votre côté, Yves-Olivier, où nous emmenez-vous ?
Bon, bah, j'espère ne pas trop.
La barre est haute, attendez.
Ouais, non, c'est ça, ouais, la barre est haute. Bon, je vais vous parler de TDAH avec le rapport des jeux vidéo. C'est donc ce dont parlent les pédiatres. Je parlerai également de la difficile survie des restaurateurs en vous parlant d'un deuxième restaurateur. Donc, j'en avais parlé d'un la semaine passée et on fait la suite aujourd'hui. Et le guide de survie pour les gens frileux. Donc puis ensuite j'inviterai les auditeurs à vous connaître un peu plus davantage. Je vais vous questionner un peu sur vos goûts en matière de transport en commun.
D'accord, très bien, on va aller au fond des choses, en apprendre plus sur nous ce matin. De mon côté des insolites, comme d'habitude, je vous emmène par exemple au musée des cœurs brisés. Ça se passe à Zagreb en Croatie. Également, nous parlerons de mozzarella, du pays de la mozzarella et du peut-être nouveau pays de la mozzarella. Nous n'irons donc pas en Italie. Et pour terminer, on aura le temps, je pense, de parler de voleurs d'eau d'iceberg. Voilà, tout ceci est au programme des voies de service ce matin.
Et on va commencer, donc on va directement partir dans l'espace parce que ça faisait longtemps quand même.
Sans transition, dès le début.
Et on va parler des comètes plus précisément. Je crois que j'en avais pas encore parlé et on va essayer de savoir si une comète peut s'user, tout simplement.
Peut disparaître, c'est-à-dire.
Voilà, est-ce qu'elle s'use ?
Est-ce que tu viens de nous définir une comète ?
Une comète.
À un moment donné,
est-ce qu'il y a besoin que je définisse une comète ?
Oui, un petit rafraîchissement.
Un petit rafraîchissement.
Bien.
Oh, bon, mais ça, je pense qu'il va y avoir ça. Alors.
Merci. Désolé. Hein, ouais.
Déjà, de toutes les comètes, on peut penser à une en particulier, je pense. Non ? Il n'y a pas un nom qui...
Comète de Halley.
Oh, voilà. Non, Yves, rien du
ouais,
tout.
Ouais, non, ça ne me venait pas ça, tout de suite. Comme ça.
Effectivement, de toutes les comètes, celle de Halley est sans doute la plus connue. Et pour cause, on lui doit beaucoup. C'est l'étude de son orbite qui a permis au XVIIIe siècle à l'astronome britannique Edmund Halley de prédire son retour en 1759. Une prévision qui s'avéra exacte et qui fit grandement progresser l'astronomie en prouvant de manière limpide que le mouvement des corps célestes était influencé par les forces de gravitation. Cette comète, qui porte désormais le nom de celui qui avait prédit son retour, effectue un tour complet de son orbite, donc un tour complet autour du Soleil, en environ 76 ans. Elle a déjà été observée donc par beaucoup, beaucoup de générations d'astronomes et d'artistes au fil du temps. Elle est d'ailleurs représentée sur la tapisserie de Bayeux, réalisée au XIe siècle. Une tapisserie donc sur laquelle on voit quelques personnages avec quelques bâtiments et un espèce de soleil suivi d'une longue traînée. Mais des écrits y font référence plusieurs centaines d'années avant notre ère, par exemple, en Chine ou en Grèce. Toutefois, c'est à partir de 1986, lors de son dernier passage à proximité de la Terre, que l'on a commencé à récolter d'abondantes données concernant cette célèbre comète. Notamment grâce à la sonde spatiale européenne Giotto, qui l'a survolée afin de la scruter et de la mesurer sous toutes les coutures. Des données qui ont permis de chiffrer la quantité de matière que perdait cette comète au fil du temps. En effet, l'intuition de notre intuition est plutôt exact, la comète Suse. Et cette usure est très visible dans le ciel à chacun des passages de la comète, puisqu'elle prend forme sur une... Elle prend la forme, pardon, d'une impressionnante queue qui s'étend sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Cette traînée est provoquée par les rayons solaires qui, lorsque la comète est suffisamment proche de lui, vaporise la glace qui constitue le noyau cométaire. Une quantité phénoménale de vapeur d'eau, de poussière et de gaz est donc éjectée en cet imposant panache qui rend la comète très visible dans le ciel. Il est à noter que, contrairement à ce que l'on pourrait penser instinctivement, la queue de la comète n'est pas orientée dans le sens du déplacement du noyau cométaire, mais dans le sens où soufflent les vents solaires. Toute cette matière que perd la comète lorsqu'elle passe à proximité du Soleil contribue à la faire maigrir à chacun de ses passages. Et en 1986, lors de son dernier passage, son noyau s'est évaporé sur 6 mètres de profondeur. Dès 1985, une étude publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avait permis d'estimer que, que depuis son précédent passage en 1910, la comète de Halley avait perdu une masse de 2,8 x 10 puissance 14 grammes, ce qui équivaut à peu près à 280 millions de tonnes de matière. Des passages identiques ont été effectués sur la comète Chury, très étudiée en 2015 par la sonde Rosetta. Là aussi, les astronomes ont pu constater combien une comète fondait sous l'effet du rayonnement solaire. À certains endroits, c'est près de 20 mètres de surface qui s'est creusée. Toutefois, bon nombre de comètes sont des corps célestes très massifs, et Halley en fait partie. D'après l'étude de 1985, cette célèbre comète pourra encore effectuer pas moins de 2300 passages auprès du Soleil, avant d'avoir totalement fondu, soit dans environ 172 500 ans, ce qui nous laisse encore un petit peu de temps pour l'observer. Et donc oui, hein, la comète, c'est ce corps massif composé de roches et de glace qui fond pendant ses passages au Soleil et qui fait cette grande traînée derrière elle.
Et après les comètes, je vous parle de ceux qui avaient des étoiles dans les yeux et ne les ont plus, les cœurs brisés. Je vous emmène au musée des cœurs brisés en Croatie, à Zagreb.
Très 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 belle transition, j'espère que tout le monde a noté.
Bon, il faudrait qu'on ait des petits panneaux pour noter les transitions à chaque fois.
Un bruit de tambour.
Écoutez, je m'essaye. Zagreb donc, un grille-pain qui ne servira plus ou une prothèse, vestige d'un amour évanoui. Ces objets sont réunis à Zagreb, au musée des relations rompues, où l'on pouvait venir célébrer jeudi passé une Saint-Valentin fort peu conventionnelle. Chacun peut amener dans ce petit musée du centre de la capitale croate un objet témoignant d'un amour détruit. Cela peut être un grille-pain, un vélo d'appartement, un soutien-gorge en dentelle. Dessous, un petit texte raconte une histoire. Parfois très court, comme dans la salle intitulée « Prendre l'amer » en un mot avec le doux. Cette phrase, sous un livre de recettes minceur, « Ceci était un cadeau de mon ex-fiancé, faut-il vraiment que j'en dise plus ?» Sous une boîte d'ingrédients à pizza, une femme a écrit sa lettre de rupture avec le gluten. L'atmosphère est beaucoup plus lourde dans la salle « L'amour dans les tranchées ». On y trouve une robe de mariée, jamais portée, en provenance de Turquie. Le futur époux est mort avant la cérémonie. Il y a aussi cette jambe artificielle appartenant à un ancien combattant de la guerre d'indépendance croate de 91 à 95. La prothèse a duré plus longtemps que notre amour, est-il écrit. Le musée est né en 2006 d'une rupture, celle d'une productrice de films, Olinka Vistika, et d'un artiste, Drazen Grubišić, qui, après leur séparation, ont voulu créer un endroit pour leurs objets partagés, plutôt que de les envoyer au dépotoir. Quand nous avons commencé ce projet, je n'avais aucune idée de ce que nous allions recevoir, mais il s'est avéré que les gens sont si intéressants. Chacun a une histoire, raconte Drazen Grubišić, 49 ans. Il explique que le musée reçoit quelque 200 objets par an, et après plus d'une décennie d'existence, le musée a organisé des expositions dans le monde entier, ramenant de ces expéditions objets et histoires. Jeudi, parmi les visiteurs, des couples sont venus célébrer la Saint-Valentin, de manière peu conventionnelle. « Pour la Saint-Valentin, c'est magnifique de lire ces petites histoires », dit une touriste indienne, Kriti Pandey, présente avec son mari Patak. C'est vraiment beau, certaines choses m'ont fait rire à gorge déployée, avec d'autres j'ai pleuré, mais je trouve ça vraiment chouette ces instantanés sur les vies des gens, dit John Turner, un touriste britannique de 33 ans. La prochaine exposition du musée se déroulera à York, dans le nord de l'Angleterre, avec en thème central un autre type de rupture, le Brexit. Pour la montée, les organisateurs ont lancé un appel aux dons, un tantinet provocateur auprès de la population de cette ville. Vous avez récemment mis un terme à votre relation, vous voulez vous décharger de toute charge émotionnelle en vous débarrassant d'une expérience douloureuse, demande-t-il. Ne le faites pas, un jour vous pourriez le regretter, conclut-il. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I.
Alors, je crois que ce matin, on a de la suite dans les idées parce qu'on vient d'entendre Lana Del Rey avec la pièce Video Games. Et comme par hasard, on va parler de, je crois, jeux vidéo. Est-ce exact?
Tout à fait. Un grand merci Jean-Sébastien en régie pour m'aider dans mes transitions et mes introductions d'articles. Et d'ailleurs, pour faire suite donc, à l'article sur les ruptures de Louis, je m'essaye à une transition. Allez-y. Il est temps qu'il y ait rupture entre les enfants et les jeux vidéo. C'est imminent. Il en va de leur santé.
Parfait.
Ça va, ça?
Excellent. Oui, dans la même veine, j'approuve.
Alors, en fait, c'est qu'après avoir récemment lancé une mise en garde contre la surconsommation de médicaments pour traiter les diagnostics de troubles déficitaires d'attention et d'hyperactivité, TDAH, des pédiatres proposent maintenant des solutions, notamment de réduire le temps passé par les jeunes devant les écrans et les jeux vidéo. C'est un texte de la presse canadienne. Après leur lettre du 31 janvier dernier, les pédiatres écrivent cette fois que des études ont démontré que l'utilisation abusive des jeux vidéo peut favoriser l'émergence de symptômes de TDAH ou en aggraver la portée. Ils proposent donc qu'une campagne de sensibilisation soit envisagée et qu'à l'instar de ce qui a déjà été fait dans certaines écoles, l'interdiction de l'utilisation des téléphones cellulaires et tablettes en milieu scolaire soit appliquée, excepté pour des fins pédagogiques. Dans leur lettre que publie lundi le Journal de Montréal, les pédiatres ajoutent que davantage d'activités physiques devraient être offertes à l'école, de 30 à 45 minutes par jour, car cela devrait améliorer la concentration de ceux qui ont un TDAH. Les médecins proposent aussi d'améliorer l'accès à des services psychosociaux et de dresser des lignes directrices sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils suggèrent la mise sur pied d'un comité conseil. Dans leur lettre du 31 janvier, 48 pédiatres qui citaient des données de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES, ou l'INE 3S, affirmaient que les taux de prévalence de la consommation de médicaments pour traiter un TDAH étaient beaucoup plus élevés au Québec que dans le reste du Canada. Chez les 10-12 ans, on compte 13,97% de jeunes qui consomment des médicaments psychostimulants au Québec, un taux qui grimpe à 14,5% chez les 13-17 ans. Dans le reste du pays, les taux pour ces mêmes groupes d'âge sont d'à peine 5,08% et 4,3% respectivement. L'un des signataires des deux lettres, le docteur Guy Falardeau, affirmait que le danger du vaste recours aux médicaments est que dans certains cas, on masque un problème de santé mentale. Le médecin de Québec rappelait que les problèmes affectifs, émotionnels et sociaux devaient être réglés et qu'il ne fallait pas changer le comportement des enfants qui en souffrent avec des médicaments.
Et on va partir sur un sujet un petit peu controversé. J'en ai pas parlé tout à l'heure, je voulais le garder secret. On va parler de l'homéopathie. Effectivement, cette médecine un petit peu controversée, un peu partout dans le monde encore.
Faut-il y croire, faut-il ne pas y croire?
Qu'est-ce qu'on en dit? C'est un article de Science et Avenir donc, qui traite principalement du cas recensé en France. Donc, seule classe de médicaments à être remboursée sans avoir à faire la preuve de son efficacité, l'homéopathie pourrait voir son statut remis en cause en France au printemps 2019 par la Haute Autorité de Santé. L'organisme a été saisi par le ministère de la Santé pour évaluer le bien fondé du remboursement des médicaments homéopathiques, dans un avis qui devra tenir compte de l'efficacité de ces remèdes. Plus de la moitié des Français, 58%, a déjà utilisé plusieurs fois des produits homéopathiques, selon un sondage Ipsos réalisé en octobre 2018 pour le compte de 3 laboratoires homéopathiques. D'après Boiron, leader français du secteur, 20 000 des 100 000 généralistes de l'Hexagone prescrivent régulièrement des granules homéopathiques. Donc on va faire un petit rappel des principes, usages et critiques qui entourent cette pratique. L'homéopathie est donc née à la fin du XVIIIe siècle, des expérimentations du médecin allemand Samuel Hahnemann. Cette méthode thérapeutique repose sur 3 principes. La similitude, donc homéo, qui signifie « même » en grec, consiste à soigner avec des substances végétales, minérales ou animales qui provoquent des symptômes semblables à la maladie. Les doses infinitésimales, les substances sont diluées pour qu'elles ne soient plus toxiques. Des dilutions à 1% sont répétées plusieurs fois. Ainsi, la mention 9CH sur un tube signifie que les dilutions à 1% ont été pratiquées 9 fois, ce qui équivaut à diluer 1 mètre cube d'eau dans le volume total des océans du globe. et l'individualisation. L'homéopathie prétend considérer le patient dans son ensemble et ne se focalise pas sur les seuls symptômes. L'homéopathie pèse peu dans les dépenses de sécurité sociale, 56,4 millions d'euros de remèdes homéopathiques remboursés en 2018 sur les 19 598 milliards de médicaments remboursés, soit 0,3% du total. En revanche, pour l'économie française, l'homéopathie est un secteur non négligeable, avec 3200 emplois directs et un leader mondial basé à Lyon, Boiron. Selon le Syndicat national des médecins homéopathes français, 5000 médecins homéopathes exerçaient dans le pays en 2016. Les autorisations de mise sur le marché pour l'homéopathie ne répondent pas aux mêmes exigences que pour les médicaments classiques. Pas besoin de fournir de données sur l'efficacité du produit. Mais ils doivent être suffisamment dilués pour garantir leur innocuité. L'homéopathie n'est pas reconnue comme une véritable spécialité en France, mais des facultés proposent aux futurs médecins ou professionnels de santé des formations validées par des diplômes universitaires. Ailleurs en Europe, le statut de l'homéopathie varie grandement. Très pratiquée et remboursée en Allemagne, l'homéopathie est pratiquement absente du NHS, le système public de santé britannique, qui a recommandé en 2017 à ses médecins de cesser de la prescrire. Peu répandue et en perte de vitesse en Espagne, l'homéopathie est critiquée par Madrid, qui voudrait que Bruxelles impose les mêmes preuves d'efficacité pour autoriser les granules au niveau européen que pour les... Pardon, pour autoriser les mêmes preuves d'efficacité pour les granules que pour les médicaments classiques. En France, les prises de position de médecins contre l'homéopathie se sont multipliées ces derniers mois. Dernière en date, le Collège national des généralistes enseignants a appelé en janvier 2019 à l'arrêt du remboursement de l'homéopathie qualifié de méthode ésotérique. L'Association des Académies des Sciences Européennes a estimé en septembre 2017 qu'il n'existait aucune preuve scientifiquement établie et reproductible de l'efficacité des produits homéopathiques, même s'il y a parfois un effet placebo. L'homéopathie peut même avoir un effet nocif en retardant la consultation d'un médecin. De son côté, l'ancien responsable des autorisations de mise sur le marché à l'Agence française du médicament, le professeur Jean-François Bergmann, reconnaît à cette discipline l'efficacité d'un placebo magnifié par la confiance du patient en son médecin homéopathe. Ce chef de service à l'hôpital La Riboisière n'accorde pas la moindre propriété pharmacologique à l'homéopathie, mais estime qu'il ne serait pas rationnel de ne pas prendre en compte l'irrationnel chez l'homme, donc cet effet placebo.
D'accord, et peut-être qu'après ces questions d'homéopathie, on verra arriver dans le débat public la question des remèdes de grand-mère, alors
de ce vaste marché-là.
En parlant de remèdes de grand-mère, j'étais un petit peu surpris parce que si c'est pour utiliser des produits naturels, c'est pas ce qu'on faisait avant que la médecine actuelle existe.
Là, ce qui est remis en compte principalement dans l'homéopathie, c'est ce principe de dilution, en fait. D'accord. Qui consiste à prendre une toute petite dose d'un principe actif, de le diluer des dizaines et des dizaines de fois pour en obtenir une dose à peine, comment dire,
vraiment ridicule.
Mais c'est pas toujours dilué 9 fois, ça dépend du produit.
Ça dépend
des
du
fois,
produit, effectivement.
Quelque chose peut être dilué juste qu'une fois, donc ça voudrait dire que là...
Effectivement, alors une fois je ne sais pas parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'homéopathie, mais effectivement c'est ce principe de dilution, je pense qu'il est énormément remis en cause. Parce que c'est des doses qui n'auraient de toute manière aucun effet sur l'organisme parce qu'elles sont déjà présentes dans ces quantités-là.
Puis l'autre affaire, c'est qu'ils disent c'est jamais prouvé, mais il y a des études qui ont été faites.
Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que l'homéopathie n'avait pas plus d'effet qu'un effet placebo.
Mais il y en a
Non.
Le sujet est vaste, on en débat ici au voie de service, comme vous pouvez voir.
Comme le temps est pesant, mon âme est scogriffe. Un grand ciel menaçant, un éclair qui me crie. Ton cœur est malicieux, ton esprit dans ses griffes. Ne peut rien faire pour toi, et tu es tout petit. Les nuages voyageurs font des dessins abstraits. Il me parle de bonheur que jamais je n'entends. Je pourrais faire comme eux et partir sans délai. Léger comme une poussière, transporté par le vent. Et dans la solitude de ma danse aérienne, le courage revenu, je trouverai les mots. Je réciterai sans cesse des prières pour que vienne la douceur du silence d'un éternel repos. Mais épuisé que je suis, je remets à plus tard le jour de mon départ pour une autre planète. Si seulement je pouvais étouffer mon cafard, une voix chaude me dirait: tu brilles comme une comète. Tu brilles comme une comète. Comme la lune est moqueuse quand elle s'empare du ciel, elle me regarde aller comme une lampe de poursuite. Je voudrais la détruire ou me poser sur elle, étourdi par son charme qui jamais ne me quitte. Je suis comme une loupe que le soleil embrasse, ses rayons me transpercent et culminent en un point, allument le feu partout se trouve ma cuirasse, et après mon passage, il ne reste plus rien. Et dans la solitude de ce nouveau désert, j'aurai tout à construire pour accueillir la paix, et tout mon temps aussi pour prévenir l'univers que la joie est revenue et qu'elle reste à jamais. Créatif. Je suis comme mon peuple indécis et rêveur. Je parle à qui le veut de mon pays fictif. Le cœur plein de vertige et rongé par la peur. Et dans la solitude de ce nouveau désert, j'aurai tout à construire pour accueillir la paix. Et tout mon temps aussi pour prévenir l'hiver. Jamais.
Simplement le temps de vous donner le titre de cette chanson. C'était La Comète des Colocs, dernière pièce des Colocs qui est parue œuvre posthume après le décès de son chanteur. Et sur ces quelques notes joyeuses, on s'en va à la pause. On revient dans quelques instants avec d'autres sujets plus insolites, plus intéressants les uns que les autres. N'allez nulle part.
Voici, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission. Nous parlions juste avant la pause de vraie ou fausse médecine avec l'homéopathie. Et bien, un peu dans cette même veine-là, parlons de vraie ou fausse mozzarella, puisque ce n'est pas en Italie que je vous emmène, c'est en Grande-Bretagne. Et oui, ils font de la mozzarella là-bas aussi. La mozzarella, c'est de la fausse. Attendez mon article avant de juger. La mozzarella fabriquée au Royaume-Uni se retrouve de plus en plus dans les assiettes des Britanniques et espère détrôner sa cousine italienne en profitant d'un coup de pouce, le Brexit. À 2000 km de la Campanie, dans les collines verdoyantes du Hampshire en Angleterre, quelques dizaines de bufflones quittent nonchalamment leur étable, des brins de paille encore collés à leurs sabots. C'est l'heure de la traite à la ferme de Laverstoke, Pejody Stecker, 69 ans. Avant que Pejody Stecker, 69 ans, en attrape une, laissant s'échapper son cœur juteux. On parle là de mozzarella, pas de bufflone. La différence avec les mozzarella italiennes, les nôtres sont meilleures, dit-il malicieusement. Cet ancien champion de Formule 1 reconverti dans l'agriculture et l'élevage bio s'est lancé dans la mozzarella au lait de bufflone il y a 10 ans, avec pour objectif d'obtenir le meilleur goût sans concession. Il produit aujourd'hui quelques 150 tonnes de mozzarella bio par an dans sa ferme de 1000 hectares. Ici, les ruminants sont chouchoutés, broutant librement dans une pâture plantée de 31 types d'herbes et trèfles différents, ou regroupés en hiver dans une large étable où ils peuvent, se faire masser à l'aide d'une gigantesque brosse tournante. Du bleu, du brie, du gouda et même du cheddar ont été produits avec leur lait, avant que la ferme se spécialise sur la mozzarella, répondant à une demande massive selon M. Stecker. Toutefois, le palais des Britanniques a dû s'habituer à cette nouvelle spécialité locale. Au début, c'était compliqué parce que ma mozzarella était fraîche et que la plupart des gens en Angleterre n'avaient jamais goûté de la mozzarella fraîche. La mozzarella qu'ils achètent au supermarché est au moins vieille de 5 jours et commence à ramollir, se rappelle-t-il. Les boules de mozzarella produites dans cette ferme sont vendues dans les supermarchés Waitrose sur Internet par le distributeur en ligne au cadeau et se retrouvent aussi dans les salades de la chaîne de restauration rapide prête à manger. À quelques semaines de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue fin mars, Jody Stecker envisage l'avenir avec optimisme. De clients potentiels l'ont contacté, tâtant le terrain. Il y a de l'intérêt. Environ un tiers de la nourriture consommée au Royaume-Uni vient actuellement du continent, et les professionnels de la distribution craignent des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement en cas de sortie brutale de l'Union européenne, ce qui se profile. Certains groupes constituent des stocks, tandis que d'autres changent de fournisseurs, se tournant vers le marché local. Tim Martin, président de la chaîne de pubs britannique Wetherspoon, a ainsi décidé de cesser de vendre du champagne dans ses établissements afin de privilégier les boissons fabriquées au Royaume-Uni et en dehors de l'Union européenne. Le groupe Azzurri a aussi récemment opté pour une mozzarella made in Britain avec ses chaînes de restaurants Ask Italian et Zizi, qui représentent 650 tonnes de mozzarella chaque année. Nous avons fait des tests de dégustation à l'aveugle et la mozzarella britannique a gagné. Elle avait une bien meilleure texture et était plus crémeuse, affirme Catherine Turner, directrice du développement alimentaire chez Azzurri. C'est un très bon produit et pas seulement en termes de saveur. C'est aussi un produit plus local. Le Brexit n'a pas constitué l'unique raison de notre choix, mais ça a été pris en considération. Les restaurants du groupe sont désormais approvisionnés par Glambia Cheese, un des plus grands producteurs de mozzarella en Europe qui exporte dans plus de 30 pays dans le monde. En pleine croissance, Glambia Cheese, qui a déjà 2 sites de production au Royaume-Uni, a annoncé l'été dernier investir 130 millions d'euros dans une fabrique dernier cri en Irlande. Celle-ci sera capable de produire quelques 45 000 tonnes de mozzarella chaque année et il y aura donc aussi des petits producteurs locaux anciens pilotes de Formule 1. Ouais.
Je sais pas pour vous, mais moi, mon fromage, je le mets dans mes crêpes.
Petit,
voyez-vous
conseil,
le rapport,
petit conseil okay, d'éthique. Par... On est parti sur les parce crêpes. Que...
c'est ça.
Ça.
Parce que je vais vous parler d'une crêperie.
Il s'est inventé un régime alimentaire juste pour la transition. Allez, acceptez.
Allez, voilà. Donc, en plus, on est toujours le matin. Donc, pour les auditeurs qui se cherchent quoi manger, hein.
Voilà.
Voilà, je viens de leur donner une belle suggestion. Mais peut-être pas nécessairement la mozzarella pour accompagner la crêpe. Je vais vous parler de Ginny Ross, 20 ans, donc une restauratrice qui est aux commandes du crêpe chignon. Alors si la semaine passée, je vous avais parlé du restaurateur qui se nomme Séguet et de son restaurant la Sainte-Cécile, là, on se déplace à 500 km de la Sainte-Cécile, à Montréal, et c'est sur la rue de la Cathédrale, à Rimouski, le crêpe chignon. Le petit vestibule du crêpe chignon dérougit rarement. On s'y entasse, dépeigné par le vent du fleuve Saint-Laurent, qui se trouve à quelques pas du restaurant de Ginny Rose et de Stéphanie Proux. Ici, on tourne des crêpes de tout genre depuis 20 ans. En 1998, les deux femmes ont cassé leur cochon. Vous comprenez ?
Oui,
parfait. 40 000 $ plus tard, sans prêt de la banque, le crêpe chignon a pris forme. Les gens partent souvent gros. Nous sommes partis petits, mentionne Ginny Ross. Elle accorde que le projet aurait coûté beaucoup plus cher aujourd'hui. Nous avons bûché fort fort les 3 premières années et 2 autres années pour s'en remettre. On avait un bon rythme de croisière dans les années 5 et 6. Je ne serais plus là si j'étais seule, dit-elle en riant. Ginny et son acolyte copropriétaire en ont connu des semaines de 70 heures. Aujourd'hui, elles se partagent 5 jours de gestion à deux et elles font confiance à des piliers de l'équipe pour les 2 autres journées. Ça laisse du temps pour réaliser d'autres projets. Ginny, Stéphanie et leur équipe font partie de ceux qui survivent. Seulement 15,3% des entreprises en restauration parviennent à survivre au-delà de 9 ans, selon l'ARQ. Chaque agrandissement, on l'a fait avec nos sous, explique Ginny. Elle pense aussi que le secret du succès du crêpe chignon vient du fait qu'elle et son associé servent des assiettes pas trop dispendieuses puisque les deux propriétaires ne sont pas chefs cuisinières. Et le fait d'être engagé dans la communauté avec des initiatives tangibles crée un sentiment d'appartenance des Rimouskois envers le restaurant. Au crêpe, les clients peuvent côtoyer un serveur d'un soir, entre guillemets, au profit d'une cause. Les gens s'y attachent et y retournent. Son restaurant a toujours été en croissance depuis le début, même si cette année est plus dure en raison du manque de main-d'œuvre. Parce que ces temps-ci, on a un candidat pour 3 postes. Avant, c'était 3 candidats pour un poste, illustre-t-elle. Ce manque de bras se fait sentir un peu partout. Selon une étude du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, en juin dernier, il manquait en moyenne dans les restaurants sondés 2,4 employés de cuisine et 1,9 employés en salle. La clé pour contrer cette pénurie ? Être évolutif autant avec la clientèle qu'avec ses employés, nous dit Ginny. Pour elle, il est important d'offrir de la flexibilité dans les horaires et de parler le même langage sur les mêmes plateformes. Au Crêpe Chignon, les employés ont leur page Facebook où ils peuvent discuter de leur disponibilité. Peut-être faudra-t-il penser à avoir une main-d'œuvre étrangère temporaire, comme pour les producteurs agricoles qui viendraient travailler dans nos cuisines. Avance aussi Madame Martin Vézina, en parlant des restaurateurs en région. Engager et gérer autrement, innover, faire face à la pénurie de main-d'œuvre, vivre avec de maigres profits, voir sa clientèle volatile, peu importe les écueils, la neige accumule encore devant le comptoir Sainte-Cécile de Séguier-Lepage et le vent continue de décoiffer les clients de Ginny Ross. Les burgers aux spaghettis bolognais se vendent, les crêpes se retournent. On survit et on vit en restauration. On fonce aussi, parce que c'est comme ça, quand la passion nous tient.
Le groupe Pink Martini qui reprend ce succès interplanétaire de la chanteuse Myriam Makeba, c'était bien sûr Pata Pata.
Pata Pata, et on va... Alors moi j'ai pas de transition, hein. je vous laisse faire ce genre de choses, je ne sais pas faire. Moi je vais vous parler plutôt du feu et des pyromanes un petit peu, parce qu'on sait quelque chose qui est assez méconnu, enfin méconnu. On sait que ça existe et on a tendance à penser que c'est effectivement des gens qui prennent plaisir à allumer des feux dans des forêts ou à faire brûler des immeubles, etc.
Mmh. Et d'ailleurs, ça a été dans l'actualité là, récemment. Là.
Ouais, effectivement. Malheureusement. Là, Et pour autant, la pyromanie ne se résume pas à des actes criminels et motivés par un mobile personnel. Ainsi, la pyromanie pure est un trouble psychiatrique caractérisé par des envies pulsionnelles d'allumer des feux sans autre but que l'acte en lui-même. Si ces pyromanes purs sont des cas rares parmi les incendiaires, ils représentent tout de même 1% de la population générale. Être pyromane ne recouvre pas obligatoirement un problème psychiatrique sous-jacent. On peut avoir une personnalité normale avec une problématique pulsionnelle qui se déplace sur le feu. Ainsi, la fascination pour le feu est banale chez les jeunes enfants, qui allument le feu et l'éteignent aussitôt. Adulte, on peut aussi avoir des moments régressifs qui renvoient à des expériences infantiles antérieures, le feu prenant alors des significations fortes et diverses. Le feu, c'est dévoiler sa flamme, la passion amoureuse, mais aussi la puissance et la virilité, explique le docteur Gassman, qui pourrait peut-être en partie expliquer pourquoi 80% des incendiaires sont des hommes. Ainsi, très peu des incendiaires relèvent de la psychiatrie, moins de 5%. Un allumage de feu pour cause de vengeance, rupture ou fraude à l'assurance peuvent en effet ne pas du tout relever de la psychiatrie. Ce n'est pas le caractère crapuleux d'un crime qui signe un problème mental, révèle le docteur Gassman. Sur la totalité des incendiaires, on observe un taux de récidive très élevé, de 33%. Ce sont des individus plutôt jeunes, de moins de 40 ans, avec généralement des problèmes d'alcool, des antécédents suicidaires, issus d'un milieu défavorisé, célibataire, ou parfois avec un niveau intellectuel limité. Le feu est pour eux une façon d'exprimer un besoin, un désir, une souffrance, ou par exemple le désir de retourner en couple. Les femmes sont rares parmi les incendiaires, elles ne représentent que 20% des cas. Chez elles, le mobile est souvent la vengeance personnelle. Il est rare de trouver des troubles psychiatriques. Plutôt solitaires, elles ont souvent fait des tentatives de suicide et montrent généralement une instabilité affective et une immaturité marquée, ainsi qu'un problème de dépendance à l'alcool. Chez les adolescents, la pyromanie vise principalement les figures d'autorité, parents, enseignants, société. Ils sont souvent très immatures et marqués par des conflits familiaux, ont souvent déjà volé ou fait une fugue et pratiqué l'école buissonnière. Et parmi les 5% de cas psychiatriques, on trouve couramment des pyromanes purs, qui représentent tout de même 1% de la population générale. Ils ont la particularité de n'avoir aucun mobile. Ils allument le feu uniquement pour les émotions très intenses que cela leur procure. Ils ressentent ainsi souvent une tension croissante, une excitation parfois presque sexuelle lors de l'allumage, avec une vigilance accrue. Puis arrive une nouvelle phase où ils se sentent psychologiquement épuisés, vidés. Un cycle de sensations et d'émotions qu'il n'aurait pas exclusif, puisqu'il peut aussi être ressenti par les kleptomanes, voleurs compulsifs, ou par les personnes atteintes de troubles alimentaires lors des crises de boulimie. Leur plaisir se trouvant également dans la préparation et la construction de leur acte, les pyromanes purs agissent toujours avec préméditation. En revanche, ils choisissent l'objet à enflammer sans intention particulière de nuire, bien qu'ils soient totalement indifférents aux conséquences de leurs actes, plus par autocentrisme que par manque d'empathie. L'objet à enflammer sera donc plutôt choisi en fonction de l'endroit où il se trouve, poubelle, voiture ou encore forêt. Les pyromanes purs sont souvent dépendants de l'alcool, parfois au jeu d'argent, qui leur apporte le même cycle d'excitation, de gratification et de soulagement que le feu. Chez les autres incendiaires relevant de la psychiatrie, le feu n'est pas une fin en soi, mais un symptôme d'un trouble sous-jacent. Des psychopathes et pervers jouissifs peuvent ainsi utiliser le feu, le premier bien souvent pour un mobile personnel, et le second parce qu'il jouit de la souffrance d'autrui. Certains retards mentaux peuvent également entraîner un désir irréfléchi et impulsif de reconnaissance qui se traduit en pyromanie, sans qu'ils prennent conscience de la portée de ces actes. Plus rares, les dépressifs suicidaires peuvent également vouloir se suicider ainsi, éventuellement en emportant avec eux d'autres personnes. Certaines psychoses, comme la paranoïa ou la mégalomanie, peuvent donner naissance à des délires, comme une voix leur ordonnant d'allumer un feu. Les bipolaires, en phase maniaque, marquée par une surexcitation intense et un sentiment de toute puissance, peuvent également devenir pyromanes. Enfin, certains cas de démence, comme la maladie d'Alzheimer, peuvent causer l'allumage d'un feu accidentel. Seul un entretien médical poussé permet aux psychiatres de diagnostiquer les pyromanes, selon qu'ils sont « normaux », entre guillemets normaux, marqués par une pathologie sous-jacente ou pyromanes purs. Lorsqu'une pathologie est identifiée, c'est elle qui est traitée, explique le docteur Gassman. Dans le cas des pyromanes purs, une psychothérapie individuelle d'accompagnement ainsi que des traitements médicamenteux peuvent permettre de maîtriser les montées de pulsions. Donc oui, les pyromanes ne sont pas juste des gens qui prennent plaisir à faire brûler tout ce qu'il y a autour d'eux.
Ça va paraître un peu simpliste, mais c'est comme pour beaucoup d'autres pathologies, je sais pas, comme le rapport à l'alcool, etc. C'est le progrès, la société aussi, ça aide pas. Hein, parce qu'avant, les gens allumaient régulièrement des feux pour se chauffer, s'éclairer, même cuisiner.
Effectivement.
Donc ouais. Peut-être que la pyromanie, ça pouvait se glisser là-dedans pour certains.
Se soulager avec ça.
Mais maintenant, il n'y a même plus ces options-là. Fait que...
Non, la gazinière ne suffit pas.
Non, c'est ça.
Eco m'a mis le feu au studio, je vais donc calmer un peu tout ça et vous parler d'eau. On va redescendre, éteindre ce brasier. Parler d'eau et plus précisément d'un vol d'eau, et pas n'importe laquelle, un vol d'eau d'iceberg. Une distillerie se fait voler de l'eau d'iceberg. Alors c'est déjà suffisamment étonnant, mais alors vous allez voir le volume qui a été volé, j'ai été moi-même abasourdi. Le vol inusité d'environ 30 000 litres d'eau d'iceberg dans l'entrepôt d'un producteur de vodka de Terre-Neuve laisse les propriétaires perplexes. Voilà une belle phrase. Des employés de la distillerie Iceberg Vodka ont découvert lundi matin qu'un des 10 réservoirs d'eau de l'entrepôt de Port Union à Terre-Neuve et Labrador avait été vidé de son précieux liquide. La police enquête sur ce vol, dont la valeur est estimée entre 9 000 et 12 000 dollars. Les voleurs ont subtilisé suffisamment d'eau pour remplir un camion-citerne, ce qui équivaut à environ 150 000 bouteilles de vodka iceberg, a indiqué jeudi le PDG de l'entreprise, David Meyers, depuis son bureau de Toronto. Les dirigeants se demandent maintenant qui a bien pu voler de l'eau d'iceberg et surtout pourquoi. L'eau des icebergs est appréciée pour sa grande pureté, mais la cueillette du produit constitue une entreprise dangereuse et coûteuse, rappelle M. Meyers. Et comme les vendanges, la récolte ne peut se faire qu'une fois l'an. Ainsi, chaque année, à la fin du printemps, et pendant une très courte période, un équipage part au large de l'île de Terre-Neuve en quête d'icebergs de taille idéale. Monsieur Meyers se console en se disant que le vol s'est produit en hiver, de sorte qu'une partie des pertes pourra être compensée par la prochaine récolte de ce printemps. D'autres entreprises de la province sont autorisées à récolter de l'eau d'iceberg pour des cosmétiques, de l'eau en bouteille ou de la bière. Mais elles en utilisent beaucoup moins que la distillerie Iceberg Vodka. Et donc, si vous voyez apparaître une nouvelle marque de vodka du côté de Terre-Neuve et Labrador dans les semaines qui viennent, c'est peut-être qu'on a retrouvé les voleurs.
Wow, là, je vis de mort pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Wow, là, je vis de mort pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Fermez mes réseaux sociaux, ça m'engourdit le cerveau. J'suis tanné de voir la face de ton chien, ton humeur du matin. J'ai vendu ma télévision parce que j'trouve le temps long. J'ai l'impression d'être un robot qui bouffe tes commerciaux. Wow, là, j'ai de mort pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, pis j'sors dehors, le soleil brille encore. J'ai éteint la radio depuis que ma langue est un ratio. Toujours les mêmes chansons qui tournent sur les mêmes stations. J'ai chiffonné le journal, j'tannais de voir les scandales. Mais au moins, ça me fait du papier pour partir le foyer. Wow, là, j'vais de mort pendant qu'il est pas trop tard. Moi, j'arrête là, pis j'sors dehors, le soleil brille encore.
J'ai fermé le téléphone, il paraît qu'on m'espionne. J'aime mieux parler aux petits oiseaux, quoi qu'ils ont peut-être des micros.
Oh là, je vais dehors pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Oh là, je vais dehors pendant qu'il n'est pas trop tard. Moi j'arrête là, puis je sors dehors, le soleil brille encore. Oh là.
Tigre de Roche et la pièce Wola sur Canal M.
Alors, pour conclure, je tiens à vous partager le fait que, plus que jamais, avec la température actuelle, je me sens vraiment québécois lorsque je sors de chez moi et que je dis dans ma tête « Fais frais en tas !»
Yves Olivier est pleinement intégré.
Parfait. On applaudit.
Alors, et je vous propose pour survivre le guide de survie pour les gens frileux. Oui, c'est pour vous, Com, et allons-y. Les auditeurs qui vivent ce que vous vivez en ce moment. Ici, le froid, on connaît ça. Mais difficile de s'y habituer quand on est frileux. La règle numéro un pour moins grelotter, c'est de bouger. En effet, même si l'envie d'hiberner est tentante, la sédentarité est notre ennemi juré. Voici d'autres petits trucs pour accueillir l'hiver avec sérénité. Le bain de romarin. Comme ça vous parle, non? Ok. Alors, bien des gens ont les pieds et les mains glacés dès que l'hiver se pointe le bout du nez. Comme il y a moins d'afflux de sang dans les extrémités, le corps génère moins de chaleur à ces endroits. Ça, je suis sûr que vous le saviez. Pour réactiver la circulation sanguine, on laisse infuser un bouquet de romarin dans l'eau du bain pendant une dizaine de minutes. Et ce n'est pas de l'homéopathie. Le parfum aromatique du romarin a un effet revigorant et favorise une diffusion bienfaisante de la chaleur dans le corps. Est-ce que ça vous parle, ça?
Pas du tout. Même, pas du tout. Okay, je ne connais pas les propriétés du romarin.
On va y aller pour le deuxième petit truc, c'est les vêtements techniques. Rien de mieux que la méthode des pelures d'oignon pour affronter l'hiver. Celle-ci consiste à porter 3 épaisseurs de vêtements. Pour la couche de base, on privilégie la laine mérino ou le polyester. On évite le coton à tout prix car il emprisonne l'humidité. Ensuite, on enfile une laine polaire ou une couche intermédiaire en duvet pour assurer une isolation secondaire. Dernière étape, on choisit un manteau impair respirant qui protège contre le vent, l'humidité et le froid. Vous saviez ? Bon, parfait.
Il n'y a pas de problème.
Et on n'oublie pas nos pieds. Les chaussettes en coton sont également à proscrire. On choisit plutôt une paire faite en laine ou à partir d'un mélange composé de laine et de fibres synthétiques comme l'acrylique et le polyester. Les petites étiquettes là sur les chaussettes, maintenant va falloir les lire. Les boissons froides, et oui, le fameux chocolat chaud au bord du feu est peut-être réconfortant, mais ce n'est pas le meilleur choix quand on souhaite se réchauffer. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les boissons froides consommées en grande quantité peuvent nous aider. Le corps reçoit alors le signal qu'il doit se réchauffer pour ramener sa température interne à 37 degrés. Logique, quand on y pense. Et enfin, la crème hydratante, c'est connu, le chauffage électrique assèche l'air et la peau. Résultat, des jambes en peau de crocodile, ça je connais. Or, une peau sèche et irritée par le froid perd plus de chaleur qu'une peau bien hydratée. Voilà pourquoi il est important de bien se crémer de la tête aux pieds. Le beurre de karité est particulièrement efficace contre les méfaits de l'hiver, riche en acides gras saturés. Il nourrit l'épiderme en profondeur, en plus de lui redonner son élasticité. Après, vous y mettez du parfum si vous voulez.
Du romarin.
Alors, 3 ingrédients et 4 étapes seulement. 2 cuillerées à table de beurre de karité, 2 cuillerées à table d'huile de coco, 1 cuillerée à table d'huile d'olive. Faire fondre le beurre de karité et l'huile de coco au bain-marie, ajouter l'huile d'olive et mélanger bien le tout, laisser refroidir au réfrigérateur pendant 30 minutes, fouetter le mélange et dorloter votre peau, et ça vous donne du beurre corporel maison.
C'est là.
Parfait. Nous voilà rhabillés pour l'hiver.
Réchauffés
en tout cas. Merci Yves-Olivier pour tous ces précieux conseils. pour vivre cette belle saison de manière sécuritaire et chaleureuse. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux, Com et Yves-Olivier, pour vos articles intéressants,
merci
comme d'habitude.
Merci à vous, Louis, pour vos belles transitions.
Mais écoutez, on progresse dans les transitions. On s'en vient pas pire. Merci également à Jean-Sébastien pour la mise en onde et les choix musicaux. C'était les Voix de Service. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Bye.
À bientôt. Bye.